Il a depuis longtemps révélé comment un capitalisme débridé peut agir à la façon d'un mythe, attribuant réalité et pouvoir à des choses qui n'existent pas par elles-mêmes. De qui parle-t-on ? Question. Et qui parle ? De qui parle-t-on ? Eh bien, on parle d'un certain Marx, Karl. Je répète la phrase. Il a depuis longtemps révélé comment un capitalisme débridé peut agir à la façon d'un mythe attribuant réalité et pouvoir à des choses qui n'existent pas par elles-mêmes. Et qui parle ? Eh bien, c'est, vous aviez trouvé, l'archevêque de Canterbury. Ça commence très très fort. Ça commence très très fort et c'est très intéressant de commencer par là, je trouve, parce que ça raconte que Marx intéresse beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui et que Marx est de retour. Voilà pourquoi on se retrouve avec Daniel Ben Saïd, qui est l'auteur de ce Marx mode d'emploi aux éditions Zone, avec des dessins de Charb. Et la couverture dit l'intention générale du bouquin. Marx est mort, ha ha ha, les cons. Et celui qui dit ça en cavalant, c'est Marx lui-même. Et c'est vrai que ces temps derniers, on a vu des gens comme Jacques Attali saluer Marx, même écrire beaucoup sur Marx. Et on a vu quelqu'un comme Alain Minc se prétendre le dernier marxiste français. À certains égards.
À certains égards.
Daniel Ben Saïd, comment expliquer ce retour de Marx ? Le spectre est de retour.
Oui, bah, y a une actualité éditoriale qui ne fait que concrétiser l'actualité de sa critique des sociétés contemporaines. C'est pour ça que ce retour, quand et comment, ça, personne n'aurait pu le prédire. Mais en revanche, il n'y avait pas tellement de doutes pendant les années de disgrâce, justement, parce que la couverture que vous venez de citer, c'est une réplique à un titre à la une du journal Newsweek au début des années 80, qui avait titré « Marx est mort, allez con ». Ça a été la période de purgatoire ou d'éclipse, mais à partir du moment où on est aujourd'hui confronté à ce qu'un ami économiste appelle un pur capitalisme, les mécanismes du système mis à nu, eh ben, sans en rester là, parce que la société a bougé depuis Marx, mais renouer les fils de la critique de cette société, de ses fétiches, de ses mythes, etc., à partir de Marx, c'est pas un point d'arrivée, mais c'est un point de départ presque indispensable.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Daniel Ben Saïd. Marx, mode d'emploi.
Flight number 2, arriving from New York.
Jésus revient parmi les siens, vous vous souvenez de la chanson ? Bah, cette fois, c'est Marx qui revient, Karl Marx revient. Et c'est la mode, Karl est à la mode, mais attention, gare à la récup, les embaumeurs vont nous le rendre tout à fait inoffensif. Lui qui voulait semer des dragons, Marx, sa vie, son œuvre et sa barbe, vu par Daniel Ben Saïd, Marx, mode d'emploi, c'est aux éditions Zone, avec des dessins souvent très poilants de Charb. Alors, si on parle aussi allègrement de ce sujet, Marx, le communisme, etc., c'est quand même qu'on est en train de vivre une crise qui pose beaucoup de questions actuellement par les temps qui courent. Et le mot capitalisme, par exemple, est revenu il y a quelques mois. Il y a 5 ans, ce mot était complètement banni, poussiéreux, ridicule, connoté, ringard, etc. Comme le nom de Marx, hein, comme d'autres privatisations, nationalisations et lutte de classe. Voilà un mot qui revient ces temps-ci, depuis quelques mois à peine, la notion de lutte de classe. Voilà qu'à nouveau, la vision de la société, à travers cette grille de lecture, cette appréhension, semble séduire à nouveau et avoir une certaine validité.
Bah, oui, alors d'abord, il y a des choses dans le vocabulaire qui seraient assez drôles à souligner et à réfléchir. Par exemple, le mot libéralisme s'est évaporé. Plus grand monde se proclame libéral. Si, le pauvre Delanoë l'a fait à contre-temps et à ses risques et périls. Bon, il n'y avait pas le sens de l'histoire et du moment. Mais donc, le débat est devenu... c'est d'ailleurs récurrent dans les discours de Sarkozy, le discours de Toulon le 25 septembre l'an dernier. Il y a eu encore mieux la conférence organisée par le gouvernement français en janvier, dont on a peu parlé, sur refonder le capitalisme. Et donc, il y a toute aujourd'hui une mobilisation pour sauver le soldat capital. Et puis, il y a le diagnostic de Marx, c'est que le soldat, non seulement il ne faut pas le sauver, mais il faut l'enterrer. En tout cas, il faut renverser le système. Un des points forts de Marx, outre sa compréhension de la mondialisation qui en fait l'actualité, c'est la compréhension des crises. Le capitalisme porte en lui la crise. Alors pendant toute une période, on a cru qu'avec la gestion keynésienne, les manipulations monétaires, on avait fini avec les crises. Bon. Et là, on a une crise qui est peut-être encore plus grave, ça sera un autre sujet, que celle qui sert jusqu'à présent de référence, qui est la crise de 29-38. Bon. Donc, la compréhension des crises, c'est quelque chose d'important. Hein. Je crois qu'il donne des clés évidentes. Même en lisant Marx superficiellement, on n'aurait pas pu raconter qu'on pouvait distribuer des dividendes de 15% pour un taux de croissance de 4%. Bon, on est dans le mythe de l'argent dont parlait Monseigneur de Canterbury, de faire croire que les choses ont une puissance par elles-mêmes, etc. Non, bon, ça... Et le troisième élément, la lutte de classe... comme le disaient les sociologues Beau et Pialoux dans leur étude sur Peugeot, sur le bassin d'emploi de Montbéliard, la classe ouvrière n'avait pas disparu, elle était devenue invisible. Alors là, elle est redevenue visible. La lutte des classes, il n'y a pas besoin de grands discours. Hein. Il n'y a qu'à prendre les parachutes dorés, les hello parachutes, les retraites chapeaux, etc. Bon, le profit, aujourd'hui, c'est quelque chose de très concret et de très visible. Et de l'autre côté... Eh ben, ce prolétariat qui était censé avoir disparu, il suffit de voir les coups de colère à Caterpillar, à Molex, et puis bon, ce n'est que la partie la plus visible, ce n'est qu'un début. Hein. Moi, là, je me suis pas mal circulé dans plusieurs villes. Derrière les cas emblématiques et qui sont connus publiquement, il y a dans presque toutes les villes une petite boîte de 80, de 100 salariés qui ferment là, mais dans une petite ville non universitaire, ça a des conséquences en cascade sur le logement, sur le petit commerce, etc. Donc oui, bon, voilà, aujourd'hui la bourgeoisie, elle a une figure, une organisation, le MEDEF, et puis en face, il y a les millions de manifestants du 19 mars, du 29 janvier et des journées à venir.
Sans pitié, mettez la main dans la caisse. Pendant que les proles transpirent pour gagner quelques pièces. Vous qui magouillez à vous en foutre plein les poches. Alors qu'en bas ça trime pour faire becter les mioches. Vous vivez dans l'impunité, toujours au-dessus des lois. Intouchables comme des rois, méprisés les sans-droits. Vous qui contrôlez les destins de ceux qui ont que dalle. Et ignorez les douleurs, les cris de ceux qui ont mal. Vous donneurs de leçons, même avec vos mains sales. Vous qui calculez le bétail électoral. Vous qui nous voyez comme un tableau de statistiques, comme un problème ou comme un enjeu politique. Vous la crème des crèmes politico-affairistes. Vous et vos visions d'un monde ultra-capitaliste. Vous, exploitants de la misère. Vous qui méprisez nos chansons de la colère. Préparez-vous à mordre la poussière. Attendez-vous à vivre l'enfer. Exploité, détestable prolétaire. Dominé, démuni, sont sur le pied de guerre. Écoutez les mélodies de l'insurrection. Écoutez bien. La masse est en ébullition, écoutez cet air qui me donne envie de monter le son. Il y a dans la rue comme un air.
Sens-tu comme un air de déjà vu, car l'histoire sans cesse se répète. Ceux qui prospéraient hier d'une manière ou d'une autre, demain ils laisseront leur tête. Dirigeants malfaisants, barons de la finance, gros bonnets de la bourse. Industriels exploitant la misère humaine comme dans un champ de course. Comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air. comme un souffle de révolte, révolution planétaire, comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air, comme un souffle de révolte, révolution planétaire.
On continue avec Daniel Ben Saïd sur Marx, mode d'emploi qui sort chez Zone avec des dessins souvent très 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 poilants de Charb. Et évidemment, on en vient au Capital de Marx. Et là, je voudrais lire quelques lignes. Au commencement était la marchandise. Sous son apparente banalité, la moindre table, la moindre montre, la moindre assiette, comme la noix de la célèbre chanson de Charles Trenet, contient en tant que marchandise tout un monde. Il suffit de l'ouvrir pour qu'en sorte, comme les foulards et lapins d'un chapeau d'illusionniste, une série de catégories qui vont par deux, la valeur d'usage et la valeur d'échange, le travail concret et le travail abstrait, le capital constant et le capital variable, le capital fixe et le capital circulant. Tout un monde schizophrène, perpétuellement dédoublé entre quantité et qualité, public et privé, homme et citoyen, avec la définition inaugurale de la richesse comme un énorme entassement de marchandises. Marx tient le bon bout pour percer le grand mystère moderne, le grand prodige de l'argent qui est censé faire de l'argent. Voilà un extrait qui, pour introduire en quelques minutes, l'explication des trois tomes du Capital de Marx. Mais vous présentez ça bien en disant non, 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 pas d'inquiétude, c'est un polar finalement.
C'est un grand polar, ouais.
Oui.
Mais bon, c'est pas une blague, hein. Bon, je faisais ça à mes étudiants, évidemment, c'est un artifice pédagogique, mais un artifice sérieux. Parce que si on regarde la période de rédaction du Capital, elle est exactement contemporaine de la naissance du roman policier moderne. Un peu postérieure à l'histoire des 30 de Balzac, mais d'Edgar Poe, de Wilkie Collins, de quelques années antérieures à Conan Doyle. Parce que le roman policier moderne est un genre littéraire qui traite justement du monde urbain. Bon, les crimes passionnels à la campagne, il n'y a pas beaucoup de mystères, les liens sont directs. Bon, là, au contraire, justement, l'argent, comme il circule, c'est quelque chose dont on perd la trace, dont on va suivre les déplacements, les fameuses valises habillées de dollars ou de lingots d'or qui circulent, qui passent de main en main, qui se perdent dans les brumes des villes, dans le Grand Londres, etc. Et avec Marx, on est exactement dans ce récit-là. C'est-à-dire, il y a un mystère. Bon, d'abord, d'où vient la richesse? Comment se fait-il que, au lieu d'avoir une société en équilibre, on a une société qui accumule de la richesse? Donc, il y a un crime originel et un lieu du crime. Et oui, je l'écris comme ça. Je vais pas me citer, c'est prétentieux. Mais moi, je lis les premières pages du Capital où Marx décrit pour répondre à cette question. Mais d'où vient le fait que de la richesse crée de la richesse et pas simplement se reproduit? Bah dit, on va aller sur les lieux du crime, on va descendre sur les talons du propriétaire, de l'homme aux écus, de l'homme qui a le capital, avec qui a derrière lui le prolétaire avec sa mine résignée, Charb l'a dessiné, etc., qui marche derrière, qui sait qu'il va là pour être tanné, et là, sous les sous-sols du marché, parce qu'à la surface du marché, on voit rien, on échange les choses, mais quand on descend, il y a une descente aux enfers, il y a du Dante aussi là-dedans, on voit les instruments de torture, les machines, etc., c'est du gothique. Bon, et là, il y a un crime a été commis, c'est-à-dire que les mots de Marx qui descend derrière le patron pour être tanné, et il a été tanné au sens propre, c'est-à-dire qu'on l'a écorché, on lui a piqué sa peau, son sang, ses muscles. Et c'est ça qui fait de la richesse. Donc, il y a un crime. Ça, c'est le livre 1 du Capital. C'est le lieu du crime.
Mais il reçoit un salaire en échange de son travail.
Ah oui, mais le salaire, alors ça, c'est la grande mystification. C'est que le salaire correspond au travail. Alors que Marx dit non, le salaire paix, en fait, un temps de travail, une force de travail. Et le mystère, la clé du mystère, c'est que parmi toutes les marchandises, il y a cette marchandise miraculeuse qui est le salarié, qui est l'homme salarié, qui a la capacité prodigieuse de pouvoir fonctionner plus longtemps que le temps nécessaire à sa propre production. Donc, le patron va payer ce qui est nécessaire à la reproduction du travailleur et de sa famille, mais il y a un temps de travail qui est empoché par le patron. Donc, le salaire a l'apparence d'un échange équitable, gagnant-gagnant, dirait notre cher Ségolène, mais en réalité, c'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes. Donc, il y a une part de travail non payée, alors que Marx, parfois, et Proudhon, d'ailleurs, appellent le définissent comme du vol, enfin c'est un vol légal puisque le salariat est légal, mais il y a une part de temps de travail non payé qui est donc du vol.
Et ça c'est la plus-value.
C'est la plus-value dans le jargon, oui.
Il y a des principes de base qu'on ne devrait jamais oublier et sur lesquels tout notre système repose. Chanson du capitalisme. Si tu veux devenir grand homme, il te faut un gros citron. C'est le propre du grand homme de pressurer les petits citrons. Le citron du petit homme fait la joie du gros citron. C'est pourquoi le petit homme pleure et jacque comme un poltron. Bon Dieu, sois ferme, pas de pitié pour les faibles. Cogne dessus et tape-lui sur le citron. Si le petit homme prétend faire des manières, ce n'est pas ton affaire, tu n'es pas son père. Bon Dieu, sois ferme. Pitié pour les faibles, pas de sentiment, mais lui un bon coup sur la gueule, oui un bon coup sur la gueule.
Alors comment on va passer de la plus-value au profit ?
Alors le problème après c'est que au livre 2 du Capital, il y a le blanchiment. La plus-value est extraite dans la production. C'est le temps qui est extorqué au travailleur pour lequel il travaille gratuitement, pour le dire simplement, pour le patron. Puis après, ça passe dans la circulation. Là, il faut que la marchandise soit vendue, parce qu'il ne suffit pas de l'avoir produite. Si elle n'est pas vendue, le capitaliste aura dépensé son capital pour rien et le travailleur son travail pour rien. Donc et la boîte fermera. Voilà. C'est d'ailleurs un des mécanismes des crises. Non, donc il faut que la marchandise entre sur le marché, qu'elle trouve preneur, etc. Et là, on a la circulation dans laquelle se perd, y compris l'origine, et se perd d'autant plus que apparaît, grâce à l'autonomie de l'argent, un circuit qui est le fameux circuit du crédit où l'argent semble faire de l'argent. Vous, si vous êtes, vous déposez de l'argent en banque, ce qui vous intéresse, c'est savoir s'il aura 3%, ou aujourd'hui 1,75 pour le livret A. Bon. Mais le fait que cet argent, entre-temps, soit passé d'un investissement et servi à acheter des machines, à payer des salaires, à acheter des matières premières, ça, le rentier, le petit rentier ou le petit actionnaire, il s'en fout. Donc, il a l'illusion que l'argent peut faire de l'argent. Il y a ce pouvoir miraculeux, religieux. Je dis que c'est plus mystérieux que le mystère de la multiplication des pains. Mais c'est exactement une vision religieuse du monde. Alors qu'il faut que l'argent tourne et qu'il revienne, donc, après la vente, sous sa forme capitale. Bon, là, il s'est accumulé et il s'est transformé en profit. En gros, la plus-value, ce qui est extrait du travail travailleur par l'entrepreneur, l'employeur, etc., au niveau de la production, ce n'est encore qu'un profit virtuel. C'est du profit en puissance. Pour devenir un profit réel, sonnant et trébuchant, un profit accumulé, il faut que le cycle ait été bouclé, que la marchandise ait été vendue. Et c'est ce qui peut ne pas arriver dans les crises. C'est-à-dire que le gros problème, vous avez cité le texte où je dis qu'en gros, le système capitaliste est schizophrène, c'est que la différence des anciennes sociétés de troc où on produisait ce dont on avait besoin d'échanger pour remplir ses besoins, il y avait en gros un équilibre immédiat entre ce qu'on produit, ce qu'on échange et ce qu'on reçoit. Tandis que la société capitaliste, les capitalistes produisent sans savoir ce qui va être consommé. la production et la consommation ne sont pas directement harmonisées. C'est que le marché qui dit, après coup, si ce qui a été produit a été utile ou pas, si ça a été produit à des conditions de rentabilité conformes au marché ou pas. Et comme le marché arbitre après coup, eh ben, si on a produit trop de bagnoles et trop de logements, la crise actuelle, le marché sanctionne. Alors entendons-nous, trop de bagnoles et trop de logements, non pas par rapport aux besoins, mais par rapport au pouvoir d'achat.
Oui, là on vit cette crise actuellement, hein, avec ce mot que je mets entre guillemets, mais Marx, dans le Capital, décrit le système de la crise, oui. Tout comme Zola, dans l'argent, je crois, hein, décrit la crise.
Zola le décrit, il ne comprend pas. Il dit c'est totalement mystérieux.
Oui, c'est ça.
Marx explique quand même pourquoi il y a une logique de crise.
Oui. Mais on voit que le système décrit par Marx, c'est la crise que nous vivons aujourd'hui.
Absolument. Alors il y a un texte qui est publié en français sous le titre « Les théories sur la plus-value », justement, qui est un peu, certains considèrent, c'est le quatrième livre du Capital, dans lequel Marx présente les matériaux qu'il a utilisés, etc. Et là-dedans, il y a un texte de polémique avec les économistes classiques de son époque sur les crises, qui est encore plus concentré et plus parlant, où il explique justement cette schizophrénie, cette dissociation, le fait que production et consommation, dit-il, sont séparées dans le temps et dans l'espace. Ce qu'on produit n'est pas consommé instantanément, donc on ne sait pas si ça sera consommé et acheté un jour. Et en plus, ce qu'on produit n'est pas consommé là où c'est produit, mais voyage de plus en plus loin, donc vers des acheteurs incertains, improbables, hypothétiques, etc. Et le fait que distribution, circulation, consommation, on peut l'appeler comme on veut, et production sont dissociés, contient en germe la possibilité de la crise.
Au départ, il y a ces fameux subprimes, des emprunts accordés aux petits revenus sans qu'on leur dise que le taux était variable. Ces subprimes ont été convertis en titres douteux, qu'on appelle aussi les obligations pourries. En spéculant sur ces obligations pourries, les banques se sont retrouvées à la tête de sommes fictives appelées actifs toxiques. Avec ces actifs toxiques, les banques avaient donc des capitaux artificiellement gonflés, les chiffres pipeaux. Quand ils ont vu ces chiffres pipeaux, les acteurs économiques, appelés aussi les têtes de cons, ont réalisé la fragilité du secteur bancaire, ce qu'on appelle le « chier dans leur benne ». Le « chier dans leur benne » a paniqué les têtes de cons qui ont essayé de revendre le plus vite possible ces titres ou refiler cette merde. Les bourses, aussi appelées ramassées de sang-couilles, dégringolent. Les têtes de cons chient dans leur benne, plus personne n'arrive à refiler sa merde, on décide alors d'en appeler au gouvernement. Ce qu'on appelle aussi le « on a tout claqué le pognon, faut nous en redonner ». Le gouvernement américain injecte 700 milliards de dollars qu'il emprunte à la Chine et aux Émirats arabes. Ce qu'on appelle aussi le « les bridés sont bien obligés de nous filer la thune parce que si on se pète la gueule, ils pourront plus nous fourguer leurs produits de merde ». Pareil pour les enturbanés, s'ils veulent continuer à nous vendre leur pétrole à la con, faut qu'on puisse encore acheter des bagnoles. Les bridés et les enturbanés filent la thune. Les têtes de con arrêtent de chier dans leur benne et les ramassis de sang-couilles ont le cul propre parce qu'il a été bien léché. Pendant ce temps-là, les boîtes se pètent la gueule, les gens n'achètent plus rien parce qu'ils ne peuvent plus ou parce qu'ils ne pourront plus, et ils se font virer ou ils vont se faire virer. Un bon gros bordel qui va tous nous foutre à la rue, à poil, ce qu'on appelle aussi une crise financière.
Alors, il y a tout un passage du bouquin que vous consacrez à Dieu. Et plutôt, plus exactement, à la mort de Dieu. En quoi est-ce que Marx s'intéresse à Dieu ? On l'a dit, Marx est mort, mais auparavant on avait dit Dieu. Dieu est mort. Et ce que vous rappelez, c'est que pour toute une série de philosophes, ce qui est intéressant, c'est pas que Dieu ait créé l'humanité, mais c'est que l'humanité ait créé Dieu.
Oui.
Ce qui est intéressant dans Dieu, c'est que c'est les hommes qui l'ont inventé. Et il y a évidemment au XIXe siècle, mais ce n'est pas la première fois, tout un courant de lutte contre la religion, d'athées qui veulent absolument... Des athées, d'athées, faites attention à la radio, des athées qui entendent en finir avec la religion, comme aujourd'hui. Ce courant existe toujours, bien évidemment. Mais ce que vous indiquez bien, c'est que Marx ne s'intéresse pas tellement à ce mouvement athéiste, disons. Il s'intéresse aux causes de la religion de la croyance et de l'opium du peuple aux causes qui vont faire que les gens, notamment les gens de peu, les fameux prolétaires, vont se réfugier dans la religion comme dans un opium. Avec ceci, c'est que l'opium, eh bien, ça, à la fois, ça soulage et ça abrutit. Donc, il n'y a pas une attaque de la religion elle-même, mais sur les causes du religieux, oui, de l'aspiration religieuse chez les modestes, disons.
Ça, c'est parce qu'il considère, il le dit très tôt, hein, dans un texte de 1843, donc un texte, on dirait, de jeunesse, il a 25 ans, il commence, d'ailleurs, c'est la première phrase, je crois, en Allemagne, la critique de la religion est faite. Donc, ses prédécesseurs, notamment Feuerbach, qu'il estime beaucoup à l'époque, a fait un livre de critique du christianisme. Et donc, là, l'idée du renversement, c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui... pour soulager ses peines, à imaginer Dieu. Bon, cette critique-là est faite, dit Marx. Donc, ça n'y revenons pas. Il considère que c'est un acquis. Et d'où la question intéressante maintenant, c'est pourquoi cette société a besoin de se fabriquer des croyances. Et on ne peut pas combattre la religion sur le terrain, faire une croisade sur les idées. Bon, ça, c'est assez vain. Le vrai problème, c'est s'attaquer aux racines qui font qu'il y a un besoin de religiosité ou de religieux. Ce qui amène, effectivement, ce que vous dites, Marx n'est pas du tout dans les croisades de libre-pensée, rationaliste, positiviste, etc. Et il y a même des textes de Marx, et notamment d'Engels, un magnifique d'ailleurs, qui est dans qu'on a republié dans les documents à propos de la Commune de Paris, où il dit, bon, déjà... militer pour l'athéisme, c'est accorder trop d'importance à Dieu. Et puis, de toute façon, il ne faut pas non plus créer une religion de la raison. Plus on va vouloir imposer une sorte de religiosité d'État rationnelle contre les autres religions, bon, on fabrique encore du religieux. Donc, là-dessus, ce n'est pas des bouffeurs de curés, hein, c'est pas non plus des... Mais ce n'est pas leur problème principal, effectivement.
Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Marat fut un soyeux, nom de Dieu, à qui lui porte haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu, je veux parler sans gêne. Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu, et je couche sur la paille. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés, pends de nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu. Et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne, nom de Dieu. Mérite la lanterne. Mérite la lanterne.
On continue avec Daniel Ben Saïd, Marx, mode d'emploi, qui sort chez Zone, évidemment avec une couverture rouge, et un dessin de Sharpe qui représente Marx en short, bien évidemment, qui en criant « Marx est mort, ah ah ah, les cons ». Autre chose concernant Marx, c'est Marx antisémite. Il y a le fameux texte « La question juive », et on accuse Marx d'antisémitisme. C'est faire peu de cas de Proudhon, qui souhaitait la fermeture des synagogues et la déportation massive des Juifs vers l'Asie.
Oui.
Voilà. Mais ça, il faut bien resituer ces positionnements et cette histoire.
Alors d'abord, il y a un truc qui me paraît important, c'est que même vis-à-vis de Proudhon effectivement a écrit là-dessus, il y a un anti-judaïsme populaire, hein, dont s'est nourri par la suite l'antisémitisme de Drummond, etc. Mais parler à propos de Proudhon ou de Marx d'antisémitisme est anachronique, parce que le terme est apparu en 1879 seulement, Ce qui est intéressant, c'est qu'il est apparu au moment où apparaissait la théorie des races. C'est la grande période de colonisation, Gobineau, c'est 1856, etc. Donc apparaît la théorie des races, et à ce moment-là naît, ou se greffe sur l'anti-judaïsme religieux, qui en gros pour qui les juifs étaient ceux qui avaient vendu le Christ, ou etc. Bon, ça c'était une forme, mais c'est greffé à l'anti-sémitisme racial, là, qui considère le judaïsme non plus comme religion, mais comme race, avec les stéréotypes physiques, etc., etc. Donc, Marx, antisémite, ça a pas de sens dans le contexte de l'époque, hein. Et par ailleurs, ça a pas tellement de sens non plus, puisque toute cette histoire, la polémique sur Marx antisémite, alors il y a des formules qui choquent aujourd'hui, parce qu'on les lit.
Bon, avec les yeux d'aujourd'hui.
Les rapports des juifs à l'argent, si on lit Balzac et la maison Nucingen, si on lit Heine qui lui-même était d'origine juive, etc. Mm-hmm. Bon, on en trouverait des tonnes. C'est une banalité littéraire, l'idée du rapport du juif à l'argent qui renvoie à une réalité sociologique, pas de tous les juifs, mais de la fonction usuraire dans les interstices de la société féodale où les gens n'avaient pas le droit justement de faire de l'usure. Bon. Donc ça, c'est une donnée. Mais Marx, au contraire, l'objet polémique de son texte sur la question juive, c'est une polémique avec un de ses anciens amis, Bauer, qui dit, oui, pour que les juifs aient accès aux droits civiques, donc qu'ils puissent, on dit pas voter à l'époque, mais avoir au droit accès aux emplois, etc., il faut qu'ils renoncent à leur religion pour devenir comme tout le monde. Et là, Marx est cohérent et dans la même idée critique, il dit non, ils ont droit à leur religion comme tout le monde. Et il faut privatiser la religion, mais pas l'abandonner. Donc, et là encore,
privatiser au sens d'en faire une affaire privée.
En faire une affaire privée. Oui. Donc, délimiter un espace public d'un espace privé. Mais on ne demande pas aux gens de renoncer à leur religion pour accéder à des emplois publics. Et il dit, ça résoudra pas le problème. Et il dit d'ailleurs, dans le pays qui est apparemment le plus démocratique à l'époque, les États-Unis, c'est le pays où les religions existent et ô combien, etc. Donc je crois que là, c'est vraiment un mauvais procès anachronique qui a été fait. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il a croisé Heinrich Kretz, qui est le pionnier de l'historiographie. Shlomo Sand en parle justement, qui a reconstitué une sorte d'histoire de la continuité des Juifs à travers le temps. Bon, ils ont pris leur bain à Carlsbad ensemble et Marx lui a offert le Capital, l'autre l'histoire du peuple juif. Tout ça il était un peu excédé par le communautarisme des rabbins, mais ça l'a pas empêché de rédiger leur pétition pour les droits civiques à leur demande.
Autre chose qu'il reprochait à Marx, c'est l'éloge de la dictature du prolétariat. Dans leur analyse de la Commune de Paris, Marx et Engels évoquent la dictature du prolétariat. Ça, avec, on parlait de l'antisémitisme, c'est une chose qui revient régulièrement. Marx est le père de la dictature du prolétariat. Vrai ou faux ?
Du point de vue des textes, c'est absolument vrai. Il le dit dans une lettre. Il dit, moi, j'ai pas inventé la lutte de classe, ou je l'ai pas découverte, exactement, il n'y a pas d'inventeur. Mais il dit, bon, d'autres en ont parlé avant moi. En revanche, une des choses originales que j'ai apportées, c'est l'idée que pour sortir de ce merdier capitaliste, faudra en passer par une dictature du prolétariat. Alors là, bon, sans faire de l'érudition sur les termes et l'étymologie, mais il faut quand même rappeler quel est le problème qui est posé à l'époque. Les gens raisonnent à partir de la Révolution française. Et leur problème, ce qu'a dit Babeuf aussi, c'est comment on peut devenir un peuple épanoui alors qu'ils ont fait de nous des barbares. Babeuf dit ça à propos de l'écrasement de la Vendée et ce qu'il appelle le populicide de Vendée, hein, quand même, par les armées républicaines. Donc comment des êtres qui ont subi l'oppression, la domination, qui ont été mutilés physiquement, abrutis, etc., peuvent se transfigurer ? Bon, ça, c'était le problème légué par la Révolution française. Et la plupart des révolutions des années 1830 tournent autour de cette idée-là. Comment on peut passer de cette situation de servitude qui a fait de nous des barbares à des êtres épanouis, porteurs d'une culture nouvelle, etc. La plupart du temps, ils raisonnaient en termes, il faudra, comme transition, une dictature éclairée, un triumvirat, ce qui a eu lieu de la Révolution belge en 1830. Donc on cherche quelques hommes vertueux, c'était aussi l'idée du comité de salut public, qui sont capables de faire passer le pont. Et du coup, Marx reprend le terme de dictature. Mais il le retourne. Quand il dit dictature du prolétariat, ce qu'on évidemment, qui n'est pas lisible aujourd'hui, c'est pour la première fois dictature, oui, comme pouvoir d'exception, je vais en dire un mot, mais dictature de la majorité, non pas de la minorité. Et ça, pour l'époque, c'est un renversement total de perspective. C'est pas justement l'individu éclairé qui va assurer la bonne société, mais c'est une invention d'en bas. On en revient à ce thème conducteur. En plus, ce qu'il faut préciser, c'est que le terme dictature à l'époque n'est pas péjoratif. Ce qui est péjoratif, c'est la tyrannie dans le vocabulaire du XVIIIe, XIXe siècle. Le pouvoir arbitraire, c'est la tyrannie. On peut lire un texte de Rousseau, « Abat les tyrans », etc. La tyrannie est le pouvoir arbitraire, et le pouvoir arbitraire d'un seul, en général, ou de quelques-uns. La dictature, c'est des gens qui sont pétris de culture latine, de l'histoire romaine, hein, l'histoire des Romains de Montesquieu, etc. Pour eux, la dictature, c'est un pouvoir d'exception, oui, un état de guerre ou de guerre civile, mais un pouvoir qui est très réglementé, qui n'est pas du tout arbitraire. C'est un mandat donné par le Sénat romain au dictateur pour conduire une guerre, qui est un mandat donné, révocable et limité dans le temps. Donc, à partir du moment où Marx pense que la révolution, c'est une discontinuité dans le droit, hein, c'est un droit qui s'oppose à un autre droit, c'est pas des réformes parlementaires, d'autant plus qu'il y a peu de parlement à l'époque. Donc, il dit, le passage d'un droit à un autre, c'est, à un moment donné, c'est la force qui fonde le droit. Mais c'est la force du nombre. Et on appelle ça dictature du prolétariat. Donc, c'est un pouvoir d'exception, dictature, de la majorité, pendant une période limitée, à l'image de ce qu'était la dictature romaine. Alors, aujourd'hui, je dois ajouter qu'évidemment, le mot est devenu imprononçable après Pinochet, Franco, les régimes du XXe siècle. Donc, non, ça, je pense que c'est intéressant comme débat historique, mais il faut retenir le problème qui était posé à travers ça. Comment on passe d'un type de société à une autre, hein, par quel mouvement? Après, je crois que les mots, malheureusement, ont une histoire. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis innocents du XXe siècle.
Bonsoir. J'avoue que c'est assez difficile à avouer, mais je suis pro-capitaliste. C'est vrai qu'il fut une époque, j'aurais aimé être marxiste, mais quand on voit tout ce qui se passe, la tête des Russes, etc., ben le choix se fait assez rapidement. Hein. Je vois pas d'autre solution. Bon, c'est vrai que quand on se promène dans un supermarché, y a rien d'autre pour nous, quoi. Tout est là, y a juste à tendre la main. Donc, et voilà quoi, c'est. Et voilà quoi, c'est. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai bien fait quelques manifs. Bon, j'ai bien reçu quelques gaz lacrymogènes, mais faut avouer que. Au bout d'un moment, je préfère largement acheter des trucs tranquilles au supermarché, rentrer chez moi, regarder la télé. Et voilà quoi, c'est. Bon, les écolos ça me dérange pas, mais j'ai une grosse préférence pour le burger double steak. Donc les salades de topinambour bouillies de choux, moi, très peu quoi. Donc à partir de là, le choix se fait assez rapidement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'avoue, je suis pro-capitaliste. Rien d'autre. Marx, c'est toi là-bas dans le noir ?
Les erreurs de Marx, sur quel point il s'est trompé ?
Oh, la plus grosse erreur, sûrement, c'est de un optimisme...
Sur la fin du capitalisme par lui-même.
Sur la fin... Oui, c'est un des points ambigus, c'est qu'il y a une contradiction non résolue, finalement, chez Marx. Hein. Il y aurait d'autres points discutables sur l'écologie... sur la famille, il n'y a pas de génie absolu, c'est déjà impressionnant comme œuvre, mais je crois que le plus important par rapport à son propos, c'est qu'il y avait une contradiction. Comment décrire les conditions d'abrutissement, de travail de ces ouvriers, les rapports de fabrique, etc., et penser qu'en même temps, ces mêmes êtres soumis à une oppression, avec des horaires de travail épouvantables, etc., peuvent être porteurs d'une société nouvelle. Alors là, chez Marx, il y a un peu ce que j'appelle un pari sociologique, c'est l'idée que le capitalisme crée une industrie, des entreprises de plus en plus concentrées, de plus en plus grosses, un prolétariat de plus en plus massif et concentré. Plus il est concentré, plus il s'organise. plus il s'organise, plus il prend conscience de ses intérêts. Et donc, il y a quand même l'idée d'une sorte de mouvement de l'histoire dont l'agonie du capitalisme est finalement en vue, et presque par des lois naturelles. Il est tenté par cette idée de loi naturelle. En même temps, elle est contradictoire avec l'idée qu'il faut lutter. Donc, c'est pas si naturel que ça. D'accord, il va crever de sa propre mort, mais enfin, il faut quand même l'aider un peu. Bon, il va au-delà de son temps, mais il pense aussi avec son temps et dans les limites de son temps. Vous voyez pas. Il voit le colonialisme en Algérie, mais Marx ne peut pas penser l'impérialisme. C'est pas par hasard que les grands débats sur l'impérialisme moderne, c'est le début des années 1910, etc. Marx, il voit une colonisation assez classique sous ses yeux. Donc, deux des livres initialement annoncés dans le projet du Capital, qui étaient en 6 livres à l'origine, alors il y en a 3 ou 3,5 de publiés, il y avait un livre sur l'État et un livre sur le marché mondial. Alors le marché mondial, ça aurait dû traiter de l'impérialisme, de l'échange inégal, il l'amorce un petit peu, hein, des phénomènes migratoires, etc. Donc ça, il n'y a pas. Là, c'est un défaut par absence, disons, plus que par erreur. Et puis, le gros problème, c'est, à mon avis, hein, c'est qu'il a, à un moment donné, ébauché une réflexion sur le phénomène bureaucratique, mais c'est dans des textes de jeunesse, mais c'est devenu une question majeure du XXe siècle, la bureaucratie. Pas seulement la bureaucratie qu'on imagine soviétique ou chinoise, etc., mais la bureaucratisation des sociétés et à leur complexité, dans les appareils d'État, les appareils administratifs. La bureaucratie, c'est dans les syndicats, dans les ONG. Donc, le phénomène bureaucratique est un phénomène sociologique des sociétés contemporaines majeures que d'autres après Marx, Max Weber, d'autres, Bourdieu, ont contribué à penser. Mais ça, chez Marx, il y a à peine, en quelques pages, qui sont très intéressantes, l'idée que la bureaucratie, c'est une forme de survivance, finalement, d'un esprit de corps qui rappelle l'ancien régime dans les sociétés modernes. Avec un recrutement par le rite initiatique des concours, il y a cette idée finalement de la religiosité de l'État bureaucratique qui est présent, mais dans des textes de jeunesse, mais qui n'est pas poursuivi après. Peut-être que là, l'absence du livre sur l'État aurait poussé sûrement Marx à peut-être pas anticiper, parce que l'explosion bureaucratique, elle est au XXe siècle, surtout, là, on change de dimension, mais à s'intéresser beaucoup plus au phénomène, qui est un phénomène très important.
Alors, on a commencé cette discussion en évoquant tous ceux qui, aujourd'hui, s'intéressent à Marx. On a cité Attali, qui a écrit un bouquin sur Marx il y a déjà quelques années, je crois. Hein,
oui,
Minc, etc. Enfin, on voit cet engouement, cet intérêt pour Marx. Il y a quand même beaucoup d'héritiers, hein, tout d'un coup, qui sortent ces temps-ci de l'ombre.
Alors, il y a les usurpateurs et il y a les héritiers. Je ferai une différence parce que, pour moi, faire de Marx ce que fait Attali, hein, il lui rend un hommage, hein, ouais, quand même, c'est un type très intelligent, un économiste incontournable, et truc, mais enfin, à condition qu'il fasse pas trop de politique, quoi, en l'amputant de sa dimension subversive. Bon, c'est peut-être ce que recouvre aussi la formule que vous avez citée de Minc, le dernier marxiste, à certains égards. Bon. Donc, il faudrait faire la part des choses entre ce qui sont des lectures carrément biaisées ou des incompréhensions ou des lectures ignorantes de Marx. Il y en a beaucoup, malheureusement. Et après, alors, il se trouve que la collection, je crois que c'est le début d'une collection, s'appelle Marx Mode d'emploi. Mais c'est un peu trompeur parce que finalement, il n'y a pas de mode d'emploi. J'essaie de dire ce qui réellement est un contresens. Mais après, c'est un héritage qui, comme le disait fort bien Derrida, l'héritage est ce qu'en font les héritiers. Et justement, il y a une pluralité de lectures et d'interprétations possibles, ce qui est le propre de tous les grands auteurs et les grands textes. Si on peut encore débattre longuement des interprétations du Panquet de Platon ou de la République de Platon, etc., a fortiori de Marx, qui est un auteur contemporain. Donc, j'ai tout à l'heure hésité à employer le mot de marxisme, mais si marxisme il y a, il faudrait le mettre au pluriel, que 1000 marxismes fleurissent. Donc, c'est une interprétation ouverte. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'héritiers, il y a de multiples manières d'hériter. Et je crois que c'est non seulement c'est pas un inconvénient, mais c'est plutôt la mise à l'épreuve et la preuve de la vitalité d'une pensée.
C'est la lutte finale, groupons-nous